Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir sur le plateau de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. Dès le vendredi, on exclut le podcast audio et la version vidéo qui vous attend sur YouTube et la version audio sur les principaux agrégateurs de podcasts. Et puis après, le week-end sur BFM Business, vous le savez, le samedi et le dimanche. Ravi donc de vous retrouver avec deux parties. Dans un instant, on va commenter l'actu avec une petite surprise. Vous allez voir, c'est le comeback d'une voix de quoi je me mêle que vous connaissez. En deuxième partie, ce sera Lionel Costa, vous le savez, du Labo Fnac qui viendra nous voir. Comment choisir son casque audio et ses trous wireless, ses intra-auriculaires aujourd'hui? Compliqué, pléthore de choix. Eh bien, le Labo Fnac, vous le savez, avec toute la rigueur de ce labo, nous donnera les meilleurs rapports qualité-prix et les meilleurs produits. Donc, ça sera la deuxième partie de quoi je me mêle. N'oubliez pas le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter comme à chaque fois. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc le club de la presse IT avec, mesdames, messieurs, roulement de tambour, brum, Anthony Morel.
Bonjour.
Anthony, tu nous as manqué ces dernières semaines.
C'est vrai, vous m'avez manqué aussi.
Ben oui, attends, alors même si on a un peu mangé des tapas à Barcelone, tu n'étais pas là, c'est embêtant.
C'est vrai. Bah ouais, je vous avoue que je vous enviais un petit peu, mais ouais, j'ai pas de Mobile World Congress pour moi, je gardais la boutique.
La boutique à Paris, en tout cas on est ravis de te retrouver. Et Anthony, je t'ai présenté tout à l'heure Nicolas Guyot.
Salut Nicolas.
Salut François, salut Anthony.
Nicolas,
de vous retrouver.
Quel plaisir de te retrouver, dis donc. Parce que, vous savez, alors, De quoi je me mêle, c'est une émission qui a plus de 20 ans, mine de rien. Et donc, beaucoup de chroniqueurs sont venus, sont repartis.
François a épuisé un certain nombre de chroniqueurs.
J'en ai épuisé quelqu'un, mais pas définitivement.
Ben non, visiblement.
Et c'est vrai que de temps en temps, vous réentendez la voix de Christophe Joly. Enfin, il y a Éric Le Bourlou qui revient de temps en temps dans De quoi je me mêle. Et là, j'accueille Nicolas Guyot et je suis persuadé que les plus fidèles d'entre vous vont reconnaître Nicolas qui, de 2007 à 2013, commentait l'actu dans De quoi je me mêle.
Tout à fait.
Voilà, à l'époque des RMC.
RMC, l'ordinateur individuel, micro-hebdo.
Voilà, tu faisais partie de notre groupe. Voilà. Et écoute, on s'est croisés pour tout vous dire il n'y a pas longtemps. Mais j'ai dit, mais attends, Nicolas, reviens un peu dans De quoi je me mêle, ça va être cool de te retrouver.
Bah oui, oui. Et voilà, c'est un plaisir.
En tout cas, rédacteur en chef de Club Geek aujourd'hui.
Voilà.
Clubic, qui est l'un des sites d'actu tech les plus visités
bien
en
sûr.
France. Hein, donc,
et un des plus anciens aussi.
Et un des plus anciens, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, ravi de te retrouver, Nicolas. Dans l'actu, on va parler de l'Apple Car dans un instant. On va parler aussi d'une intelligence artificielle qui fait des chansons. Anthony s'est amusé à créer un peu des chansons à l'hymne de quoi je me mêle.
Oui, à la gloire de François et de quoi je me mêle.
J'adore, voilà. Ça me fait plaisir.
Mais bien sûr.
Vous allez voir, c'est cool. Et puis, on va parler aussi un peu de produits. Mais pour débuter, on vit un grand jour aujourd'hui dans le monde de la tech et dans le monde aussi de la réglementation européenne, puisque depuis minuit aujourd'hui, entre en vigueur le DMA, le fameux Digital Market Act. Et même si c'est un peu compliqué à comprendre, même si c'est un peu abstrait, croyez-moi, ce jour est à marquer d'une pierre blanche, Anthony.
Oui, bien
sûr. C'est une vraie révolution.
Bah, en fait, le truc, c'est que tu as raison de dire que c'est abstrait parce que c'est une réglementation européenne. Voilà, si tu te plonges dans les méandres du texte, c'est assez complexe. Mais en fait, ça va avoir des conséquences très concrètes sur tous les services numériques qu'on utilise au quotidien. Donc, en gros, le principe et la philosophie de base du DMA, c'est de dire aujourd'hui, on a des GAFAM, en gros, c'est eux qui sont ciblés, hein, ce qu'ils appellent des gatekeepers. Donc, c'est des groupes qui sont tellement gros, tellement puissants, tellement importants, qu'ils verrouillent complètement leur écosystème.
Bien sûr. Ce qui vampirise en fait tout le reste.
Ben, c'est ça. Et du coup, ça empêche l'innovation, ça empêche les consommateurs d'avoir un choix libre et éclairé. Donc, il faut casser tout ça. Il faut casser ces écosystèmes, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Google, chez Meta, Amazon, Microsoft. Et il y a un chinois, pour faire bonne mesure, c'est ByteDance, la maison mère de TikTok. Donc, ça, c'est la philosophie de base. Derrière, bah, tous ces grands groupes, ils ont dû prendre un certain nombre de mesures pour s'adapter en fait à cette nouvelle réglementation. Et on commence à les voir, puisque tu as raison de dire, c'est aujourd'hui que ça y est, ça entre en vigueur, donc depuis quelques heures. On en a déjà un aperçu au moment où on enregistre. Et c'est là que... Alors, on va entrer un petit peu dans le détail, parce que le diable, en fait, se cache dans les détails. C'est-à-dire que tu as cette philosophie générale qui est louable. Je pense que ça part d'une bonne intention.
Et attention, chose importante, c'est que, en fait, tous ces GAFAM ne font pas ça par gaieté de cœur.
Ah ben non,
ils
alors
le
là...
font parce qu'ils sont obligés de le faire.
Mais bien sûr.
Parce que s'ils ne le font pas, il y a des amendes à la clé qui peuvent leur tomber dessus, des amendes qui peuvent être... énorme.
C'est 10% maximum du chiffre d'affaires mondial. De l'entreprise.
Alors, imaginez, donc, pour Apple, ce que ça représente.
Donc, c'est des milliards
incroyable.
Et des milliards de dollars. C'est absolument énorme. Donc là, il y a une vraie, tu veux, carotter le bâton. Là, il y a un vrai bâton quoi, devant. Mais alors, donc, évidemment, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Mais le truc, moi, la question que je me pose, avant qu'on entre dans les détails, c'est est-ce que, tu vois, derrière, c'est toujours ça. Tu as des bonnes intentions, mais finalement, est-ce qu'à la fin, ce n'est pas l'utilisateur final qui va être embêté, pour ne pas dire autre chose, par les conséquences de ce DMA?
On peut ça entrer... fait penser au RGPD un
et
peu.
C'est exactement ça. Et moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. C'est-à-dire, le RGPD, pareil, très bonnes intentions, protection des données. Le résultat de ça, c'est qu'on est obligé, à chaque fois qu'on se connecte à une page Internet, de cliquer sur « je choisis les cookies, je choisis pas les cookies ». On sait même plus pourquoi on clique, on clique pas. C'est juste un inconvénient pour l'utilisateur final.
C'est une perte de temps, c'est un handicap, on va dire.
Voilà.
Et on comprend même pas ce qui se passe.
C'est tout à fait ça.
C'est ça qui est terrible.
Et alors, l'exemple qui m'a fait penser à ça, c'est que le DMA, l'une des conséquences concrètes, c'est chez Google. Google a dû prendre un certain nombre de mesures, et notamment sur Google Maps. Et vous avez dû tous en faire l'expérience, si vous avez tapé une adresse dans Google cette semaine, c'est qu'aujourd'hui, on ne vous propose plus Google Maps par défaut. C'est-à-dire, on vous propose une carte, mais sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer, alors qu'avant c'était direct, vous étiez redirigé vers Google Maps. Mais Google, pour se conformer au DMA, a dû découpler ses services. Donc ils ne peuvent pas faire la promotion de leurs propres services sur Google. Donc quand tu tapes dans Google, en fait, ils sont obligés de cacher Google Maps au milieu d'autres options. Et donc le résultat de ça, c'est que toi, le premier truc que tu fais, en fait, dont tu as envie quand tu tapes une adresse, c'est d'aller sur Google Maps. Là, tu ne peux plus le faire aussi simplement.
Voilà. Ouais, il faut aller activer 2-3 options pour retrouver le fonctionnement à peu près normal.
C'est ça. Voilà. Et la plupart des sites d'actu, justement, expliquent comment il faut faire. Hein. Il faut aller dans les paramètres de Google et recliquer sur un petit truc.
Ouais.
Alors, Nicolas, on va écouter évidemment ton point de vue là-dessus. Mais pour revenir à Maps, tu as raison. Amusez-vous à taper une adresse sur Google. Vous allez voir, avant, vous aviez le lien Google Maps. Aujourd'hui, vous avez une photo, c'est ce que tu expliquais. Vous avez un petit bouton itinéraire qui, là, après, vous envoie sur Google Maps si vous voulez calculer un itinéraire. Mais bon, c'est un peu fastidieux, etc. Et c'est rigolo parce que moi, j'avais l'habitude de ce service que je trouve plutôt pratique, parce que c'est pas parce que c'est... Google montre parfois, fait preuve de favoritisme parfois que c'est pas bon. Google Maps, c'est excellent. Mais alors, j'ai coché la case, justement, pour récupérer Google Maps, et je l'ai toujours pas. Et ça fait 2 jours que je l'ai fait. C'est ça que je comprends pas.
Peut-être activé. Non, c'est activé depuis ce matin.
Eh bien, écoute, je sais pas. C'est bizarre.
On va essayer.
Alors, on enregistre cette émission quelques heures avant l'entrée en vigueur du DMA. C'est peut-être ça. Et peut-être que la semaine prochaine, ça fonctionnera.
Et puis, une fois de plus, c'est souvent comme ça. Les Américains, j'ai l'impression, quand on les oblige, c'est une obligation légale européenne en dehors des États-Unis. Souvent, quand on les oblige à changer leur système, j'ai l'impression qu'ils aiment bien aussi un peu se foutre de nous en mettant je vais vous mettre une photo, là c'est la carte et vous ne pouvez pas cliquer dessus. Il n'y a même pas un message qui te dit il faut activer cette fonction, etc., pour retrouver l'usage que vous aviez habituellement.
Tu veux dire par là que dans les solutions présentées, il y a un peu de rancœur en disant ok, vous voulez nous emmerder, excusez-moi du terme, non seulement je vais le faire, mais je vais emmerder tous les utilisateurs.
Absolument, t'as pas tort. Enfin, je pense que c'est complètement la philosophie des GAFAM. Alors, c'est peut-être visible un peu avec Google, ça l'est surtout avec Apple, parce que Apple, on voit très bien. Alors, eux, c'est les plus embêtés, je pense, par cette réglementation, parce que c'est eux qui ont l'écosystème à la base
le plus
verrouillé.
Fermé,
forcément, ça fait partie vraiment de leur identité, même à Apple. Et du coup, ils y vont. Ils prennent des mesures, mais on voit bien qu'effectivement, ils se moquent un peu du monde. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'éditeurs d'applications, de professionnels du secteur.
Plus d'une trentaine.
Plus d'une trentaine. Donc, tu as Spotify, tu as Deezer, tu as Epic Games, qui disent, attendez, Apple, là, on a regardé concrètement comment ils vont s'adapter au DMA. C'est du foutage de gueule. Enfin, ils font n'importe quoi. Ils font tout, en fait, pour que rien ne change, en réalité. Et donc, alors, on peut entrer un petit peu dans le détail.
Oui, bien sûr.
Apple, le gros changement, c'est l'ouverture à la concurrence. concurrence de l'App Store. C'est, en gros, il n'y aura plus seulement l'App Store, tu auras l'App Store d'Apple, mais n'importe qui peut créer une boutique d'applications concurrente pour vendre ses produits, pour vendre ses applications. Sauf qu'Apple...
C'est une révolution. Ah ben enfin, là, je veux dire, c'est un séisme chez Apple, oui. Ce truc-là. Parce
alors,
que...
en précisant bien que c'est juste sur les iPhones achetés en Europe... Donc juste les iPhones, parce que les iPads et les autres appareils d'Apple ne sont pas concernés, parce que la règle du DMA, c'est les produits et les services qui concernent plus de 45 millions d'utilisateurs, soit 10% de la population européenne, ce qui est le cas de l'iPhone, mais ce qui n'est pas le cas de l'iPad, par exemple.
Okay. Voilà. Ce qui est un peu bizarre, d'ailleurs.
Oui,
parce que c'est le même système d'exploitation. Enfin,
absolument.
Pas tout
absolument.
À fait le même.
Non, mais...
Oui, c'est iPadOS, mais c'est vrai que...
Bah, ils ont joué là-dessus.
Ils ont joué là-dessus. Et donc, là où je dis qu'ils sont malins et qu'ils jouent une sorte de double jeu, c'est qu'effectivement, ils vont être obligés d'ouvrir à la concurrence leur App Store, mais il faudra que toutes les applications et toutes les boutiques d'applications concurrentes passent sous les fourches codines d'Apple pour vérifier en termes de sécurité si ça passe bien. Et si tu télécharges des applications via une boutique externe, une boutique tierce, eh bien, elles seront taxées, enfin, les développeurs seront taxés à hauteur de 50 centimes d'euros par installation d'application au-delà du premier million. Ce qui veut dire que pour tous les gros développeurs, bah, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de rester sur l'App Store traditionnel plutôt que d'aller sur une boutique concurrente.
Que d'un côté, on vous prend plus les 30% de commission.
Ouais, okay, c'est ça.
Mais d'un autre... Dès que vous dépassez 1 million de téléchargements, on vous prendra 50 centimes par téléchargement. C'est ça, hein ?
Ouais. Exactement.
Et on met au grand jour, en fait, le business d'Apple, hein, le business de tous ces GAFAM. Ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi, en fait, et ils y vont en reculons ? C'est que, globalement, le manque à gagner est énorme.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que, en fait, tous les services, le business des services chez Apple, c'est monstrueux.
C'est considérable.
C'est à vache à lait, hein.
Absolument. Voilà. Non, mais c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, alors, ce qui est marrant aussi... C'est qu'Apple joue sur le côté, essaye de quasiment instrumentaliser.
Joue un peu sur la psychose.
Bah oui, hein, c'est ça.
Sur la peur.
Sur la peur et de ses utilisateurs. Ils ont publié, alors je ne sais pas qui est allé le lire à part peut-être les journalistes tech, moi j'ai regardé un peu évidemment, mais ils ont publié un livret, voilà, c'est le mot en français, d'une trentaine de pages à destination des utilisateurs qui explique les changements avec le DMA, opéré avec le DMA.
Et l'argument... C'est intéressant quand même.
Mais c'est intéressant.
Quand on se plonge là-dedans.
En fait, c'est intéressant sur le ton qui est utilisé et si tu veux, l'argument qui revient vraiment en filigrane tout au long du texte, c'est de dire, ok, on se conforme aux nouvelles règles, en revanche, ça se fera au détriment de la sécurité des utilisateurs. Voilà. Donc, ok, on va s'ouvrir, il n'y a pas de problème, on obéit à l'Europe, mais sachez que forcément, vous allez être perdant. Et ils publient même, alors c'est génial, tu as une quinzaine de mails envoyés par des utilisateurs, alors je ne sais pas si c'est des vrais ou des faux, mais envoyés à Tim Cook.
C'est presque ridicule.
C'est assez risible, tu vois, où les gens disent, oh là là, mais ah, Tim, oui. C'est tellement bien l'écosystème fermé, au moins on est en sécurité, que se passe-t-il, tu vois.
Bon, on dirait les faux amis sur Amazon.
C'est trop ça, vraiment, c'est exactement ça.
J'imagine Tim Cook avec ChatGPT. Allez, ok, fais-moi 15 avis négatif concernant le DMA.
C'est vraiment ça. Mais bon, c'est malin.
Après, on est mauvaise langue, c'est peut-être vrai, mais bon, ça veut pas dire grand-chose.
C'est un vrai argument, c'est l'argument de la sécurité. On a vu d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'institutions européennes, là, cette semaine, qui se sont plaintes en disant non, mais le DMA, c'est bien gentil, mais en fait, nous, on préfère l'écosystème fermé d'Apple parce qu'en termes de sécurité, c'est plus sûr pour nous, tu vois, pour, je sais pas, les fonctionnaires, pour les gens qui sont amenés à traiter de sujets sensibles, etc. Donc, ouais, c'est compliqué, en fait. Enfin, c'est un vrai argument et Apple a bien compris et le manie avec un petit peu de cynisme, évidemment. C'est logique.
Ouais, ce serait intéressant, c'est d'avoir le nombre de courriers qui ont été envoyés, savoir pourquoi on ne peut pas faire d'achat in-app depuis son iPhone. Enfin, ça serait très intéressant d'avoir un peu le quota.
Ils n'ont pas été publiés, ceux-là.
Non, clairement. Je pense que le leaflet, il n'est pas assez grand.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas communiqué les commentaires des gens qui disaient « Youpi, c'est une bonne nouvelle ».
C'est ça, exactement. Non, mais absolument.
Voilà,
non, mais...
Bon, après, c'est la communication d'Apple hein, qui est ce qu'elle est. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est la réaction de l'Union européenne, parce que ce DMA, Apple estime qu'il le respecte, mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a plein de développeurs qui disent que franchement c'est ni fait ni à faire. Certains même disent que c'est une fumisterie et que Apple se moque en fait de l'Union européenne avec ce premier jet de DMA. Ça va être intéressant de voir comment L'Europe réagit à tout ça.
Et surtout que l'Europe a plutôt la main lourde en ce moment. C'est-à-dire que vraiment sur les GAFAM, là, ils les ont dans
Apple,
le viseur.
Là, c'est chaud.
Bah, t'as vu l'amende qu'ils se sont pris cette semaine, là. 1,8 milliard d'euros pour. Alors, c'était sur un sujet un petit peu différent, mais c'était sur Apple
c'était
Music.
Sur Spotify, bien sûr. Mais on n'était pas loin. Hein,
bah, on n'était pas loin.
On n'était pas loin. On était pas loin. C'était. En fait, Spotify se plaignit de l'hégémonie d'Apple Music sur les devices Apple.
Exactement.
Finalement.
Alors là, moi, je modérais un peu plus mes propos là-dessus. Sincèrement, Spotify, c'est un monstre par rapport à Apple Music, ça a rien à voir. C'est quand même on peut pas. C'est aussi facile, je trouve, de taper tout le temps sur la tête d'Apple, alors que globalement là-dessus, moi, je trouve que Spotify, pour moi, me paraît beaucoup plus balèze que.
Ouais, mais ce que reprochait Apple, ce que reprochait Spotify à Apple, c'est le fait, encore une fois, c'est le côté contrairement, dictatorial d'Apple sur son App Store, et qui fait que par exemple l'application Spotify, mais c'est vrai aussi pour Deezer ou pour des acteurs beaucoup plus petits, tu ne peux pas mettre un lien par exemple dans ton application qui redirige vers ton site internet où le paiement va coûter moins cher parce que tu n'es plus soumis à la taxe Apple, ce qui semble pas complètement délirant, mais ça Apple par exemple t'interdit de le faire. C'est quand même on peut se dire quand même qu'il y a un abus de position dominante, tu vois.
Mais ça fait partie aussi de l'expérience, je pense, utilisateur sur les iPhones.
On revient
là-dessus.
Le problème, c'est que tu es le patron de Spotify, tu te retrouves avec un Apple qui a un écosystème fermé, qui propose un concurrent direct de ce que tu fais dans son univers, dans l'univers Apple. Aujourd'hui, tu prends Apple One, l'abonnement, je ne sais pas combien d'euros par mois, tu te retrouves avec un package où tu as plein de trucs. C'est de la concurrence déloyale. Enfin, moi, je trouve quand
après,
même. Tu
après,
vois.
Rien n'oblige de passer sur. On peut passer aussi sur. Utilise Spotify sur Android. Il n'y a pas que des iPhones sur le marché, quoi.
Je ne pense pas que ce soit. Mais à ce moment-là, ça veut dire que parce que tu n'es pas d'accord avec les conditions d'utilisation d'un appareil, tu es obligé de passer sur le système qui est concurrent. Pourquoi pas ?
Mais ça fait partie de l'expérience et de l'innovation pour moi aussi. Le fait que globalement, alors moi je suis plutôt pro Android, mais à un moment je comprends qu'il y ait des gens qui aiment avoir un système fermé, pas de problème. Effectivement, je clique sur une application, je pars pas autre part, etc. Comme je peux sous Android, effectivement.
Mais là, ils le font pas pour des questions de sécurité, ils le font vraiment pour des raisons financières. Le fait de pas te laisser aller.
Non, mais c'est l'ensemble, tu vois. C'est comme à une époque avec les navigateurs sur Windows. Sauf que je trouve ça plus audible pour Apple que pour un Microsoft ou un Google. La plateforme est censée être ouverte.
En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Je pense que le plus important là-dedans, c'est de voir ce que vont gagner les utilisateurs.
C'est ça.
C'est plus flou, je trouve, mais ça va être intéressant de voir, parce que évidemment, là, on est à l'an 1 de ce DMA. Ça va prendre sans doute des mois, voire des années avant qu'on arrive à un équilibre. Mais en tous les cas, journée à marquer d'une pierre blanche, on est d'accord.
Il y a des petites choses nouvelles aussi qu'on n'a pas citées, mais tu as par exemple le choix du navigateur sur l'iPhone qui va arriver. Tu as l'ouverture de la puce NFC
pour le paiement.
On va pouvoir voir peut-être des services
moteur
concurrents d'Apple
Pay, aussi,
moteur de recherche. Donc il y a des choses intéressantes. Voilà. Mais tu as raison de dire
Windows
on est
se met aussi à jour, Windows va être à jour,
tous
nos logiciels vont être
à jour. L'interopérabilité entre WhatsApp, Messenger, alors là c'est à l'heure où on enregistre, c'est pas encore le cas, mais ça devra arriver aussi. Intéressant.
De toute façon, on va.
Ce qui va être intéressant là-dessus, c'est l'effet boule de neige. Parce que là, on parle de. C'est une loi qui s'adresse aux Européens et pour le marché européen, mais ce qui va être assez intéressant, c'est voir d'autres pays qui vont dire attendez, vous êtes capable de faire ça en Europe, pourquoi vous ne faites pas ça chez nous?
Le RGPD, qui avait inspiré d'autres pays.
Ça va être intéressant de voir les États-Unis, justement.
Absolument. Alors,
qui sont assez protecteurs en termes de leur business, mais ça va être intéressant de voir tout ça. Bon, le DMA. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez écouter Anthony tous les matins. Clubic, j'imagine que vous en parlez aussi, bien sûr.
Feuilleton.
Sur la plateforme Tech & Co, bien sûr, le soir, dans Tech & Co, la quotidienne que j'ai le plaisir de présenter sur BFM Business. On en parle tous les jours, on essaie de décrypter, de vous faire comprendre tout ça. Tiens, encore une petite info Apple, étonnante, c'est la fin de l'histoire concernant le projet Apple Car, Anthony. Ça fait 10 ans qu'on évoquait ce vieux serpent de mer avec des rebondissements. Et bien là, ça y est, Tim Cook a signé la fin de la récré. Il n'y aura pas de voiture Apple.
Il a signé l'arrêt de mort de l'Apple Car, du projet Titan. C'était le projet en interne dont on parlait depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est si étonnant que ça, parce que depuis longtemps, on disait quand même que ça déclinait. C'est-à-dire que les ambitions d'Apple avaient été quand même largement revues à la baisse. Et c'était un peu le problème. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur un projet
très ambitieux.
Très, peut-être trop ambitieux. C'était ça un peu le truc. Enfin, c'est ce dont on se rend compte à travers. Alors, c'est les infos de Mark Gurman de Bloomberg, toujours très, très bien informé, qui explique qu'effectivement, Apple était parti bien en tête sur l'idée l'idée de faire un truc mieux que Tesla et donc d'avoir une voiture complètement autonome de niveau 5, donc sans pédale ni volant, un truc vraiment ultra sophistiqué. Et ils se sont rendus compte très vite que, un, c'était excessivement compliqué à concevoir en termes de recherche et développement, que ça coûtait des milliards de dollars, et que fabriquer des voitures, enfin construire des voitures, c'est un métier, quoi. Constructeur automobile, on ne s'improvise pas. Tout Apple qu'il soit, avec tous les moyens qu'ils ont, et les moyens qu'ils ont de débaucher des gens chez Porsche, à la NASA, tout ce que tu veux, même comme ça, en fait, c'est un métier qui est compliqué.
On le voit avec Tesla. Hein.
Ah, on le voit avec Tesla.
Elon Musk a galéré pendant des années avant d'arriver à une espèce d'équilibre industriel pour fabriquer ses voitures.
Évidemment. Alors, ils ont essayé de s'allier à des partenaires industriels. On avait parlé de Hyundai un moment, puis ça ne s'était pas fait. Il y aurait pu avoir Foxconn aussi qui fait des voitures et ça aurait été un match assez intéressant puisqu'ils font déjà les iPhones. Donc, bon, pourquoi pas. Je pense qu'ils ont aussi réfléchi en termes financiers. Ils voient que les marges sur l'automobile, c'est que dalle, alors que sur les iPhones, ils se gavent. Ouais. Donc, ils auraient tort de se priver. Enfin, c'est peut-être se compliquer la tâche que d'aller vers la voiture.
Une voiture, c'est au minimum pour Apple 100 000 $.
C'est
donc,
ça.
Qui va. Enfin, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture à 100 000 $, quoi.
Évidemment. Donc terminé. Alors c'est dommage, moi j'aimerais quand même, tu vois, on voit plein de designs qui ont été imaginés par des fans. On n'a absolument aucune image parce que Apple n'a jamais communiqué publiquement, ne serait-ce que sur le mot Apple Car ou sur l'idée qu'ils travailleraient sur une voiture. J'espère qu'un jour des historiens de la tech pourront fouiller dans les archives d'Apple ultra secrètes et nous
fouiller
montrer
dans les vieux tiroirs d'Apple.
Parce que j'aimerais quand même bien voir à quoi ça ressemble un concept de voiture designé par Apple. Voilà, juste pour ça.
Mais d'ailleurs, je pense que c'est aussi leur problème, hein, c'est qu'ils n'ont vraiment pas communiqué pendant ces dix dernières années. Est-ce que on a rien vu ? Donc en fait, il n'y a pas eu d'effet teasing, il n'y a pas eu d'effet. Voilà. Ce que sait faire Elon Musk, hein. Les Cybertruck, on l'a vu récemment, on l'a vu en fuite, photo, concept, etc. Là, Apple, rien.
Mais alors qu'il y avait 2000 personnes qui bossaient dessus, quand même.
10 milliards de coups, le projet. Hein.
Absolument. Bah,
vous vous rendez compte qu'ils ont engouffré 10 milliards en recherche et développement pour quelque chose qui est tombé à l'eau, quoi. Alors,
bon, à l'échelle d'Apple, 10 milliards.
Hein, oui, c'est sûr. Mais
c'est peanuts,
que sur ces 10 milliards, il y a peut-être des briques technologiques qui serviront à autre chose, je l'espère, pour eux.
Alors, c'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs, parce que dans alors, je ne sais pas si c'est un mail interne ou dans la communication interne, en tout cas, pour expliquer que ce projet allait se terminer chez Apple, Tim Cook a expliqué que, alors, il y aura sûrement des licenciements, mais une partie des 2000 personnes vont être réaffectées aux efforts d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu as raison de dire qu'il y a des briques technologiques. Enfin, la voiture autonome, c'est de l'intelligence artificielle. Il y a sûrement des choses qu'on peut récupérer. Par ailleurs, on sait que Apple a des grandes ambitions dans l'intelligence artificielle. Ils sont très en retard dans cette course. En tout cas, on ne les a pas entendus en parler tellement. On sait qu'à la prochaine WWDC, il y aura sûrement des annonces sur une IA générative. On sait qu'ils travaillent sur un moteur interne, un moteur de langage qui s'appelle Ajax en interne. Enfin, ils font pas mal d'expérimentations. Donc, probablement qu'on va récupérer certaines de ces briques technologiques.
Mais c'est vrai que je trouve que quand on prend un peu de recul, qu'on prend du champ, on se rend compte que c'est pas le meilleur moment pour Apple. Cette amende d'un milliard huit, le DMA qui leur tombe dessus, l'arrêt de l'Apple Car, la Chine, je sais pas si vous avez suivi aussi, ils vendent beaucoup moins d'iPhone en Chine que précédemment. Voilà, c'est Vivo qui est passé numéro 1.
C'est Vivo, ouais.
C'est dingue. Ouais, enfin, voilà. Donc il y a alors c'est pas grave, mais il y a plein de petits trucs qui font qu'en ce moment, chez Apple, c'est pas la fête, quoi.
Ça craquelle un petit peu dans tous les sens.
Ouais.
Après, je me souviens de leur dernier. Pardon, je mets la casquette BFM Business deux secondes, mais leur dernier résultat financier qui était quand même stratosphérique.
Non, mais évidemment.
Bon,
évidemment.
Tu vois, je pense que il y a tout.
Oui.
Tu vois, l'Apple Car, très bien, mais ça reste une petite parenthèse. Faut se souvenir quand même. Enfin, faut avoir en tête les ordres de grandeur. Hein. Apple, c'est un groupe qui est gigantesque, qui vaut
plusieurs milliers de dollars.
C'est des milliers de milliards de dollars, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vraiment un truc de fou.
C'est incroyable.
Et puis c'est un bon signal quand même de dire bon, alors. Il y en a qui vont être déçus qu'il n'y ait pas de voiture Apple, mais d'un côté, c'est que Tim Cook siffle la fin de la récré en disant bon, 10 milliards, les gars, vous n'avez rien sorti. On va se concentrer sur l'IA qui est aujourd'hui.
Ouais, peut-être se concentrer un peu plus
important
sur Vision Pro qui vient de sortir. Enfin voilà, alors il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, mais il ne faut pas aussi en mettre partout, quoi.
Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on attendait Apple sur des nouveaux projets innovants. Il y avait le Vision Pro. L'autre truc excitant, c'était effectivement cette histoire de voiture. Bon, celui-là, c'est dans le fossé. Hein, fini.
Voilà, on enchaîne avec un autre sujet. Tu parlais d'IA justement, parce que c'est vrai qu'Apple, c'est aussi un autre problème pour Apple, qui est en retard sur l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, il y a des petites boîtes qui font des trucs incroyables, notamment Suno, qui mêle intelligence artificielle et chant.
C'est ça.
Et c'est incroyable ce truc.
C'est dingue. Bah, c'est une nouvelle application de l'intelligence artificielle générative, en fait. Hein. Donc, on a eu évidemment ChatGPT, tout, la génération de textes, d'images avec Midjourney, de vidéos avec Sora, hein, dont on a parlé. Et tu as aussi la musique et donc cet outil-là, Suno, que n'importe qui peut tester. Hein. C'est gratuit. Alors, on peut tester gratuitement et après, il y a un modèle payant. Ça te transforme en musicien ou en compositeur. Donc, tu y mets un prompt qui résume un peu la chanson que tu souhaites. Le style, R&B, rock, jazz, ce que tu veux, et il va te faire une proposition artistique, il va te proposer deux morceaux. Alors, je l'ai testé rapidement, enfin, j'ai fait plein de trucs, mais pour De Quoi Je Me Mêle, je lui ai demandé de...
Tu deviens Jean-Jacques Goldman, en fait.
Oui,
tu
c'est ça.
Tu deviens le Jean-Jacques Goldman de BFM Business.
Voilà, t'as exactement.
Fait plein de tubes.
Plein de tubes, mais des trucs... Mais
après, tu vas ramasser
Je sais
sous.
Pas, parce qu'en question, en termes de droit, ça va poser des questions, tu vois. Mais juste, je voulais vous faire écouter, donc j'ai fait deux génériques pour De Quoi Je Me Mêle, ça donne ça.
Dans ce podcast... De quoi je me mêle, François Sorel nous raconte les détails, les sujets brûlants sans tabou. On ne peut pas.
Était vraiment très basique. C'était pour le podcast De Quoi Je Me Mêle, présenté par François Sorel, mais peut-être il l'aurait trouvé tout seul d'ailleurs. Fais-moi un nouveau générique, style reggae, je sais plus ce que j'ai mis. Enfin voilà. Mais enfin, c'est quelques informations, t'as pas grand-chose. Et à partir de ça, il te génère le texte, la mélodie, un titre aussi. Et franchement, ça le fait bien. Enfin, c'est moi, je trouve que c'est assez efficace. J'en ai téléchargé et testé un certain nombre. Après, je les avais dans la tête toute la journée. Donc, comme quoi, tu vois, c'est des trucs qui marque un petit peu. Je l'ai fait dans un autre style, ouais. Je sais plus ce que je lui ai demandé, on va l'écouter.
Allez, deuxième titre.
Au rythme mou, les échos s'envolent dans les terres du podcast. Une histoire se dévoile. François Sorel, le guide de cette aventure.
François Sorel, le guide de cette aventure.
Le guide de cette aventure.
Non, c'est pas mal quand même. Donc, là, c'est assez basique parce que les prompts sont basiques. Évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin. En fait, l'outil n'est pas nouveau, il existe depuis quelques mois. Là, c'est la dernière version qui vient de sortir, qui est beaucoup plus efficace sur les textes en français. Jusqu'ici, c'était pas vraiment génial, t'avais beaucoup d'erreurs de prononciation. Là, c'est vraiment propre. Et aussi sur la partie instrumentale, c'est beaucoup plus réussi. Je dois dire que le résultat, moi, je le trouve assez spectaculaire. Après, ça ouvre encore une fois des perspectives sur l'industrie musicale. Moi, je pense à tous ceux qui, tous les compositeurs qui bossent sur de la musique de pub, musique événementielle, pour des documentaires. Là, tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire
pour de la musique, on va dire, j'allais dire d'ascenseur, c'est pas péjoratif, mais de la musique d'illustration.
Exactement.
Ça peut.
Ça
peut. Mais comme les images d'illustration.
Mais
aussi,
tout à fait.
En fait.
C'est le même. C'est exactement le même schéma.
Tout ce qui a, on va dire, à basse valeur ajoutée en termes de musique ou d'image. Qu'est-ce que t'en penses, Nico?
Bah ouais. Après, le problème, ça va être toujours la même chose. C'est d'où ils ont récupéré ces morceaux de musique, ces mélodies, etc. Et tout, parce qu'il va y avoir une question aussi comment on reverse les droits d'auteur à ceux qui ont inspiré cette IA, parce que cette IA n'a pas inventé tout ça d'elle-même. Hein.
Ouais.
Elle est allée pomper un peu ce qui existe sur le marché. Donc
absolument. Ça, c'est complètement opaque pour l'instant.
Là, c'est complètement opaque. Et puis, mais c'est presque insoluble finalement.
Ouais, c'est
parce
très
que une chanson comme ça, il y a peut-être 10. Tu vois, il y a 10 inspirations de ce qui s'est passé, peut-être 1000 inspirations de mélodies. Comment veux-tu après rétribuer les auteurs de ce truc-là?
C'est compliqué. Autant sur du texte, quoi, sur des contenus textuels, c'est plutôt facile, on peut vite rapprocher, etc. Vidéo, on pourra aussi, mais alors là, le son...
Ouais, ça va être chaud.
Non, c'est très très compliqué. Alors, eux, ils ont essayé, parce qu'il y a un autre sujet, c'est... T'as des IA, alors avec Suno, tu peux pas, justement, pour des questions de droit, mais d'autres le permettent, c'est demander d'écrire un morceau dans le style d'un artiste.
Ah oui,
par exemple,
d'accord.
Écris-moi un inédit de, je sais pas quel chanteur, tu vois, de Nirvana.
Ouais.
Et là, il refuse. Quand tu mets le nom d'un artiste,
d'accord.
Il te dit non, ça je peux pas,
ça,
j'ai pas le droit de faire.
Okay,
voilà. Ouais. Ce qui limite un petit peu aussi, parce que sinon tu peux. Ce que tu avais eu, tu sais, il y a quelques mois, je sais pas, alors du coup, on n'a pas monté l'extrait, c'est dommage, mais tu avais eu ce faux duo entre Drake et The Weeknd.
Ah non, il y a eu cette soirée-là aussi.
Alors ouais, moi j'étais sur un autre, mais effectivement, tu as dû avoir ça. Drake et The Weeknd qui ont fait, enfin l'IA en fait, a fait des clones vocaux, a reproduit leur style, mais c'est incroyable.
Non, mais c'est incroyable.
C'est vraiment... Bien sûr, bien sûr. Si tu le dis pas C'est un faux, c'est impossible à dire. C'est
mais amusez-vous à taper sur YouTube, votre chanteur préféré est IA, et vous allez voir, vous avez des trucs. Michael Jackson, c'est incroyable. C'est il va chanter des chansons de Queen, il va chanter des chansons de n'importe qui, en fait, de Taylor Swift. Et c'est fou, en fait. On arrive à faire des trucs aujourd'hui incroyables.
T'as une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Johnny Hallyday IA Cover, où c'est un mec qui fait chanter à Johnny Hallyday tout et n'importe
tout
quoi,
et n'importe
donc
quoi.
Genre le générique des Pokémon. Des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal.
Et pas Pokémon, mal. Ça va être drôle. Tiens.
Attrapez-les tous.
Allumez le Pokémon.
Ah, alors, c'est bien l'IA.
Nico, on va parler maintenant un peu de tech, on va dire, et de produits, parce que c'est vrai que tu t'intéresses aussi à tout ça. Et tu voulais nous parler de télé, avec deux technologies en fait, de télé qui s'affrontent depuis des années. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a un gagnant en fait, entre le mini LED et l'OLED, qu'on a beaucoup vu au CES
L'OLED, la techno chouchou des geeks et autres passionnés d'image, va mal, François. Ça va très très
ça
mal.
Ça va très très mal pour l'OLED.
Ouais. Ils ont perdu pas moins de 24% de part de marché l'année dernière.
Ma télé va tomber en panne?
Non, elle ne va pas tomber en panne, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens investissent plus aujourd'hui, achètent plus des téléviseurs mini LED que des téléviseurs OLED. Aujourd'hui, OLED, c'est 2,2% de part de marché. Et c'est un peu la cata pour... Alors, il n'y a pas 17 000 fabricants de dalles OLED. Tu as LG et Samsung, notamment. Et en fait, ils sont tous en train de revoir leur stratégie parce que les Chinois arrivent avec les techno mini LED. Alors, les techno mini LED, c'est du LCD, sauf que c'est le rétroéclairage derrière qui est effectué par des mini LED. Mmh. Et on a un panneau tellement énorme et tellement paramétrable que globalement, on arrive
C'est-à-dire qu'on a la même qualité aujourd'hui en mini LED qu'en OLED, parce que franchement l'OLED, moi j'ai une télé OLED, je suis un fou de qualité d'image.
Ouais, c'est vrai que c'est super.
Et franchement, moi j'ai une Pana qui commence à avoir quelques années, mais qui a une qualité d'image de
c'est
dingue,
fabuleux,
parce qu'il y a le traitement vidéo et tout derrière. Tu veux dire qu'aujourd'hui, avec des mini LED,
tout à fait au même niveau que l'OLED, mais pour utilisateur moyen, sincèrement, on ne voit pas la différence entre une mini LED et un OLED.
Parce que l'OLED, ça coûte une blinde, c'est ça le problème.
Ça coûte
moins cher le mini LED aujourd'hui.
Quasiment deux fois moins cher. Et ceux qui gagnent dans cette histoire, c'est TCL et Hisense, qui sont les grands fabricants chinois, et qui arrivent avec cette techno. Ils ont misé énormément sur cette techno. Et cette techno, de toute façon, vous l'avez vu sur la fin de l'année dernière, regardez les promos en ligne ou dans les supermarchés, c'est mini LED partout. Donc l'OLED a pris un coup. C'est pas fini pour l'OLED, attention.
Le destin de l'OLED sera celui du plasma.
Il y a des comebacks,
Exactement. Il y a dit que la vidéo était un vieux plasma, maintenant c'est un mini LED. Dernier cri.
L'OLED n'est pas mort, loin de là. Mais par contre, il va revenir. Alors, ça continue à être aujourd'hui ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de qualité d'affichage. Mais il y a une techno qui est dans les tiroirs, notamment de TCL, qui est quand même aujourd'hui le plus grand fabricant de dalles au monde.
D'écran.
Et il s'appelle l'OLED Inkjet Printed. Et en fait, c'est de la techno OLED, mais en fait, qui pallie le problème numéro un de l'OLED. Pourquoi c'est cher l'OLED, en fait? C'est pas parce que globalement, c'est super pour les yeux, etc. C'est que ça coûte... C'est très compliqué à fabriquer.
Il y a beaucoup de déperditions.
Il y a énormément de rebuts.
Il y a des rebuts de dalles à la fin sur la chaîne de production qui est énorme. Parce qu'il y a un système de production par évaporation thermique où on crée les LED organiques. Et c'est très compliqué.
Et donc, cette technologie développée par TCL a moins de déchets.
Voilà, parce qu'on va utiliser une sorte d'imprimante. Okay. On va utiliser goutte à goutte.
On imprime des écrans.
On va imprimer des LED.
C'est fou.
Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, ça va permettre de fabriquer des écrans OLED moins chers. Et dès 2025, c'est-à-dire, en fait, ça va arriver assez rapidement.
On enchaîne, il nous reste deux minutes. J'aimerais qu'on termine avec un autre sujet. C'est Bouygues qui apporte une petite révolution dans le domaine des box. Nicolas, tu voulais nous en parler et vous en parler, j'imagine, dans Fabic.
Et lundi, Bouygues a annoncé sa nouvelle 5G box. Donc en fait, c'est une box qui s'adresse aux utilisateurs
L'ADSL, c'est cuit, ils n'ont pas encore la fibre.
Qui sont en bout de ligne, en ADSL, en machin, etc. D'accord. Et qui reçoivent, qui sont plutôt bien positionnés par rapport aux antennes et relais 4G et 5G. Et donc il y avait déjà une offre qui existait.
Donc, des box 4G, c'est pas nouveau, on va dire.
Bon, là, il y avait même une box qui existait en 5G chez Bouygues. Okay. Sauf qu'en fait, la grosse nouveauté, c'est qu'elle est liée à une clé décodeur TV. Donc en fait, c'est une sorte de Chromecast, c'est sous Google TV, ça se branche. Ça coûte 4 euros de plus par mois. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'avant, ceux qui avaient la box 5G chez Bouygues étaient obligés d'utiliser une appli et la chromecaster sur leur écran. Bref, c'était un peu, c'était un peu galère. Et comme Bouygues sait que 2/3 de ses clients regardent la télévision, ils se sont dit qu'il va falloir qu'on fasse une offre pour ça.
Et la nouveauté, si j'ai bien compris, c'est que en fait, on peut regarder la télé de manière illimitée, parce que le souci en fait des réseaux mobiles, c'est qu'ils sont beaucoup plus saturables que la fibre optique. Et donc là, avec cette box 5G, je branche ma petite clé, je peux regarder autant la télé que si j'avais de la fibre.
Totalement.
C'est illimité.
Totalement. Ça fait partie de ton abonnement. Et puis, tu passes vraiment par. Et tu as une télécommande, comme un décodeur TV, tu as 180 chaînes par défaut.
Ils annoncent quoi comme débit ? Ils se mouillent un peu ou pas ?
Ouais, le début, c'est le débit de la 5G. Quoi. Alors, donc,
mais ça dépend où tu es positionné.
Ça dépend de positionné. Si tu es sur la bande des 3,5 GHz, tu as du 1,1 gigabit en téléchargement, ce qui est
correct. Ouais,
ce qui est top, quand même. L'upload est un peu plus. Le problème de ces solutions, c'est l'upload. Mais bon, après, si tu regardes juste la télé, si tu vas sur internet, sincèrement, ça n'a rien de s'emmerder si t'es pas fibré. En fait, c'est parfait.
C'est le même prix qu'un abonnement fibre ou c'est plus
cher? C'est 45 euros par mois, donc c'est pas déconnant non plus.
Ouais, on est dans avec l'offre télé comprise.
Avec l'offre télé comprise. Ouais. Sinon c'est 40 euros. Et en fait, tu te projettes, il y a 10 ans, ça coûtait un bras, ça. Tu n'imaginais même pas.
Tu avais un maximum de gigas par mois.
Tu étais capé. Et donc là le truc, c'est, moi, je trouve que c'est une très, très bonne solution pour ceux qui
n'ont pas la fibre.
Ou sont en bout de ligne DSL et puis sont en galère. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont la DSL, ils se retrouvent avec 2 mégabits. Peut-être un peu plus, mais 2 mégas. Pour partager avec une famille, etc.
Non, c'est pas terrible.
Voilà. Donc là,
alors évidemment, il faut être dans une zone éligible. Hein. Là, j'imagine que quand vous rentrez votre adresse, on vous dit si oui ou non vous êtes éligible à cette box 5G. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà. Et puis tu as une interface Google TV. Voilà. Ouais. C'est un truc plutôt bien fait. C'est sympa.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci Anthony.
Merci les amis.
Qu'on retrouve tous les matins sur BFM Business et puis entre midi et deux chez Estelle Denis, sur RMC Story et sur RMC, bien sûr. Nicolas.
Merci
de te retrouver.
C'est un plaisir.
Plein d'auditeurs qui
ont
été ravis de te retrouver. Tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Rédacteur en chef donc de clubic.com. Vous restez avec nous. Comment choisir votre futur casque True Wireless, etc. Des casques à arceaux. Lionel Costa a enquêté sur le sujet. Le Labo Fnac arrive en force. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.